Joyeux Noël à tous. Je vous invite à chercher dans votre Bible l'évangile de Luc. On fera la lecture du chapitre 2, les versets 1 à 14. Luc chapitre 2, le récit de la naissance de notre Sauveur, Jésus-Christ. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu !» dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Ici, on a toujours ce même contraste. De tous les Noëls, je crois, il y a à la fois le côté majestueux, glorieux, que reconnaissent les anges, et puis parfois l'indifférence générale, parfois même c'est l'hostilité générale, à la naissance du Sauveur. Et le chant que groupe Echo a chanté, et il retrace bien cela. Il y a un contraste saisissant entre le point de vue du monde et le point de vue du ciel, entre le point de vue de la terre et le point de vue des anges. Et les anges ont dit et se sont écriés « Gloire à Dieu !» Ce n'était pas seulement l'ange qui annonçait, c'était tous les anges réunis autour de celui-ci. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Il n'y a pas d'autres événements comme celui-ci qui sont célébrés de la sorte par les anges. Peut-être la création. Mais ici, la venue du Sauveur, aussi humble soit-elle dans une étable, elle provoque l'admiration et la louange de tous les anges du ciel. Le moment était glorieux pour le ciel, et cela parce que la paix était maintenant offerte aux hommes. Hein, il dit, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, mais paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Le point de vue des anges, c'est toujours le bon point de vue ici. Si la paix devenait possible par les hommes, c'était en raison de la naissance même de Jésus-Christ, de l'enfant. Mais si la paix était maintenant offerte, c'est qu'il n'y avait pas de paix jusqu'à présent. Et le monde avait besoin de paix. Et le message de Noël, c'est toujours le même. La paix nous est offerte. Jusqu'à présent, la paix nous est offerte à Noël. Si le trouble a gagné votre cœur, la bonne nouvelle de Noël, c'est que la paix vous est offerte. Si vous êtes dans la tourmente d'une relation conflictuelle dans votre couple, votre famille, dans votre travail, dans votre voisinage, si vous êtes agité par les études, le chômage, la maladie, peut-être brisé par le deuil, si la tempête fait rage dans votre âme, parce que vous êtes esclave du péché qui gangrène votre vie et qui vous tire irrésistiblement vers le bas, si vous êtes le jouet des événements qui secouent votre vie, si vos émotions sont tantôt en haut, tantôt en bas, si vous êtes comme roulé par les vagues dans une tempête, la bonne nouvelle, c'est pour vous. Jésus est venu pour mettre la paix dans ce monde. Jésus est venu pour apaiser la colère de Dieu, pour apaiser la tempête dans notre vie. J'aimerais illustrer cela avec l'histoire de Jonas. Et j'aimerais vous lire à nouveau quelques versets, mais cette fois-ci dans Jonas. Parce que c'est un homme qui a connu une sacrée tempête. Et je voudrais lire les premiers versets tout d'abord. Jonas chapitre 1, les versets 1 à 6. Je lis ici. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec des messagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Pourquoi y a-t-il une tempête? Pourquoi est-ce qu'il y a une tempête? Parce que Jonas a désobéi. C'est sa fuite, loin de la face de l'Éternel, qui a provoqué cette tempête. Regardez verset 7. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui attire sur nous ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ?» Et il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Il est encore prêt... Ce Jonas, il est prêt dans sa désobéissance à mourir plutôt que d'obéir à Dieu et se rendre à Ninive. C'est incroyable. C'est incroyable la rébellion qu'il peut y avoir dans notre cœur, même quand on est soumis à une grande tempête, même quand les flots de la vie se fracassent contre notre propre coque là, on est encore prêt à mourir plutôt que d'obéir à Dieu. Voyez-vous, nous sommes souvent à nous demander « Pourquoi y a-t-il une tempête dans ma vie ?» Mais notre propre désobéissance, s'ajoutant à celle de tous les autres, eh bien, provoque la colère de Dieu. Ce que nous pouvons connaître ici-bas, de la colère de Dieu, n'est rien en comparaison de la colère à venir, celle qui frappera les incrédules dans l'éternité, le jugement qui frappera les pécheurs. Dieu, il est juste. Dieu, il va entrer en jugement avec ce monde. Et pour préparer nos cœurs, il envoie des messagers, des tempêtes, pour nous avertir. Hey, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à fléchir devant moi? Est-ce que tu es prêt à m'obéir? Vous avez déjà connu une tempête en mer? C'est terrifiant, hein? Lorsque les vagues viennent se fracasser contre la coque du navire, ça fait un bruit terrifiant. Lorsque l'avant du bateau s'enfonce et plonge littéralement dans les vagues, lorsque de part et d'autre, les vagues vous cernent. Il y a quelques jours, il y a ce gros navire là qui est venu s'échouer sur les côtes bretonnes. Un monstre de ferraille qui était incontrôlable, qui était simplement devenu comme une coque de noix sur la mer, sur l'océan. C'est ce que sont nos vies quand elles résistent à Dieu, lorsqu'elles lui désobéissent, elles sont portées d'un côté à l'autre, elles sont les jouets des événements, et puis elles vont un jour se fracasser dans l'éternité. Le vent arrache tout sur son passage. La mer, et ceux qui ont connu des tsunamis ou des grandes marées, hein, on a connu ça en France il n'y a pas très longtemps encore. Il semble dans ces moments que la mort, elle nous s'approche de nous, elle peut nous frapper d'un instant à l'autre et nous pourrions comparaître devant Dieu d'un instant à l'autre. Et je crois que ces tempêtes-là, elles sont là pour nous avertir, nous montrer notre fragilité. Qui envoie la tempête? La réponse est incontournable, hein, verset 4, il est dit « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. » Dieu envoie lui-même la tempête. Les marins qui sont habitués aux grands coups de vent ont tellement peur qu'ils implorent leur Dieu. Ils jettent par-dessus bord la cargaison pour se donner un peu plus de chance. Pourrions-nous voir les tempêtes de nos vies comme des messagers de Dieu? Dans le psaume 104, au verset 4, il est écrit « Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. » Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pourrions-nous reconnaître sa voix dans la tempête? L'Ecclésiaste dit « Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. » Réfléchis. Et ça, je pense que c'est vraiment les messagers de Dieu qui nous invitent à la réflexion. Quel est le seul moyen pour calmer la tempête? Il est intéressant de noter que les dieux étrangers ont été complètement impuissants, incapables d'apaiser la tempête. Elle n'a fait que plus ils priaient leur dieu et plus la tempête augmentait. Même nos divinités modernes sont incapables d'apaiser nos cœurs quand ils sont dans la tourmente. Le compte en banque, le matérialisme se trouve complètement insuffisant pour pouvoir calmer les craintes de nos âmes. La philosophie, qu'elle soit humaniste, qu'elle soit hédoniste, allez, mangeons, buvons, demain on mourra, alors c'est incapable d'apaiser la crainte de nos cœurs. La religion, quelle qu'elle soit, elle est incapable d'apaiser nos cœurs. Par contre, Jésus, lui, le peut. Hein, le témoignage de Jonas, c'est cela. Il dit, moi, je suis en train de fuir l'Éternel. Il dit, le Dieu, selon son expression, le Dieu des cieux qui a fait la mer et les cieux. Et la terre, pardon. Le Créateur des cieux qui a fait la mer et la terre. J'aime bien que ça vienne en premier, la mer. Et là, ils ont compris que il y avait un lien direct entre la tempête de leur vie et puis le Créateur. C'était à cause de la désobéissance de Jonas que le Créateur agitait la mer. Et pour que la tempête soit apaisée, il faut que l'objet de sa colère, Jonas, soit frappé. Et il leur dit très clairement au verset 14, alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas, ils le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Les hommes furent saisis d'une grande crainte et l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et ils firent des vœux. Jonas le sait, il sait qu'il mérite la colère. Et que c'est lui que Dieu cherche, que Dieu cherche à atteindre. Et ils ont bien tenté de faire autrement. Ils ont tenté dans les versets précédents, ils ont tenté de ramer tout ce qu'ils ont pu. Et puis comme tous leurs efforts étaient incapables de les sauver, ils ont dit, bon, ben alors, dans ce cas-là, il ne nous reste plus qu'une chose, c'est vraiment de le jeter à la mer. Et c'est parce que tous les efforts des hommes était incapable de les sauver, que Dieu a aussi envoyé son Fils dans ce monde. Une fois que Jonas a été jeté dans la mer, la fureur de la mer s'est apaisée et les marins ont compris, ils se sont tournés vers Dieu, ils ont adoré, ils ont offert un sacrifice. Quant à Jonas, il a été englouti dans le ventre d'un poisson et là, dans ce ventre, il a prié. Regardez verset 2 du chapitre 2. Il pria l'Éternel son Dieu et dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a secouru. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Dieu entend sa prière, il le sauve, il le ramène sur la rive et il le renvoie avec ce même ordre de se rendre à Ninive pour leur parler. Et c'est ce que Jonas a fait. Lorsque nous sommes saisis par la pensée de notre culpabilité, par le châtiment que mérite notre désobéissance, nous pouvons, comme Jonas, invoquer l'Éternel. Du fond de notre abîme, l'Éternel entend et il nous délivre de la fosse. Pourquoi Dieu pardonne-t-il à Jonas ? Le verset 12 nous le dit. Le verset 10. Le salut vient de l'Éternel. Parce que le salut vient de l'Éternel. Ce qu'annoncent les anges lors de la naissance de Jésus dans les champs de Bethléem, c'est précisément cela. La paix pour les hommes devient possible. La paix avec Dieu est offerte par cet enfant qui naît. À Noël, c'est Jésus qui est envoyé dans ce monde. De la même manière que Jonas a été jeté dans la mer, Jésus-Christ a été jeté dans ce monde pour pouvoir apaiser la colère que méritaient nos péchés. Dès sa naissance, Jésus, l'enfant Dieu, est plongé dans les vagues de la fureur, de la méchanceté. Il ne se trouve qu'une crèche pour l'accueillir, pour le recevoir. Quelques bergers. Et puis, bien vite, après la visite des mages d'Orient, ce sont les soldats du roi Hérode qui sont envoyés dans son village de Bethléem pour le tuer. Et pour ne pas le manquer, ce sont tous les enfants de moins de 2 ans qui vont être massacrés. Oui, Christ est plongé immédiatement dans la méchanceté, dans la dureté, dans la violence et le péché de ce monde. Mais averti par un ange, Joseph prend l'enfant et sa mère et il fuit en Égypte. Plus tard, il débutera son ministère public, mais il est confronté sans cesse aux vagues du péché, à la jalousie, à l'hypocrisie. Il est confronté à la multitude des souffrances humaines. Toutes les vagues qui frappent les hommes, la maladie, les esprits impurs, les démons, les gens de mauvaise vie, l'hypocrisie des religieux. Il parle aux uns, il guérit les autres, il délivre les troisièmes. Il est venu pour sauver. Et c'est cela que Jésus-Christ est en train de manifester dans tout son ministère. Et pour révéler sa mission, un jour il se retrouve avec ses disciples sur la mer de Galilée, dans une barque, et là une tempête se lève. Une terrible tempête à nouveau se lève. les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, comme Jonas, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Celui auquel les vents et la mer obéissent, c'est le Créateur du vent, de la mer, de la terre. Jésus-Christ va vivre jusqu'au ce jour où il monte à Jérusalem, où il se livre pour être condamné, pour mourir à notre place. Et c'est sur la croix que le moment de la tempête va s'apaiser. C'est à ce moment-là que la colère de Dieu contre le péché va être déversée, mais non pas sur nous. Nous qui méritons cette colère, mais sur le seul juste, sur Jésus-Christ. Le roi des Juifs, l'innocente victime qui détourne nos fautes sur lui-même. Jonas avait dit « Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. » Eh bien, ces paroles, certainement, ça aurait pu être prononcées par Jésus. « Toutes tes vagues, tous tes flots, toutes les vagues de ta colère, tous les flots de ta fureur contre le péché se sont abattus sur moi. » Elles sont passées sur Christ et c'est lui qui a été frappé à notre place. Jésus est dit en Matthieu au chapitre 12, au verset 36, je voudrais vous lire encore ces versets. 12, 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Remarquez que c'est quand il parle de ce jugement à venir que quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Et il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Non seulement le Seigneur authentifie l'histoire de Jonas, non seulement il authentifie la conversion massive de tous les Ninivites, mais il montre combien Jonas est une figure de Jésus-Christ. Il dit « Et il y a ici bien plus que Jonas. » Et comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, il faut de même que Jésus soit 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus est ressuscité d'entre les morts. La mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il était innocent. Elle a dû le rendre. Par la foi, nous pouvons recevoir aussi la paix avec Dieu, reconnaissant que Jésus a été plongé dans l'abîme à notre place. Par la foi, et dans une prière toute semblable à celle de Jonas, nous pouvons recevoir le pardon et la paix. Les anges, je crois, reprennent ce même cantique du premier Noël, lorsqu'une âme vient et se tourne vers le Seigneur pour faire la paix avec lui, ils peuvent rappeler « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » C'est cela Noël, c'est pour que nous connaissions la paix. C'était à cause de la colère de Dieu. C'était à cause de la juste colère de Dieu à notre égard que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous sauver. Et on ne peut pas dissocier la naissance de Christ de l'œuvre de la croix. Elles sont intimement liées parce que c'était pour la croix, comme l'ont chanté nos jeunes frères et sœurs. Alors, ce que l'on peut faire à Noël, nous, c'est nous prosterner comme les anges, comme les mages, c'est nous prosterner comme les bergers et adorer, et puis glorifier Dieu et joindre nos chants à ceux des anges pour louer le Seigneur, lui donner gloire dans les lieux très hauts, et parce qu'il offre la paix sur la terre à ceux qu'il agrée, à ceux qu'il aime. Il y a un cantique merveilleux, cantique de Noël, « Minuit chrétien ». J'aimerais juste vous en faire la lecture. « Minuit chrétien », c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple, à genoux, attend ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. De notre foi, que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant. Comme autrefois, une étoile brillante y conduisit les chefs de l'Orient. Le roi des rois, né dans une humble crèche, puissant du jour, fier de votre grandeur, à votre orgueil, c'est de là qu'un Dieu prêche. Courbez vos fronts devant le Rédempteur. Courbez vos fronts devant le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer. Qui lui dira notre reconnaissance? C'est pour nous tous, qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur.